Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation de notre balado-diffusion sur la glace édition du 14 décembre 2020. 14 décembre, lentement mais sûrement, on s'approche de Noël. On s'approche aussi du début du championnat mondial de hockey junior. Il en sera évidemment abondamment question dans les minutes qui vont suivre dans notre balado numéro 10 de la saison, déjà notre 10e semaine. On va s'en faire une autre la semaine prochaine avant de prendre une pause pour le championnat mondial et pour la période des fêtes où on va s'arrêter quelque peu. Mais la semaine prochaine, on sera encore là. Qu'est-ce qu'on a au menu pour vous cette semaine? Je me suis entretenu avec l'attaquant Jacob Pelletier des Foreurs de Val-d'Or. Il est le seul Québécois de la LHJMQ à s'être taillé une place avec équipe Canada Junior parce que oui, finalement, on connaît la composition de l'équipe, les 25 joueurs qui vont représenter le Canada et qui vont tenter de remporter une deuxième médaille d'or de suite à compter du 26 décembre prochain dans la bulle à Edmonton. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que toutes les équipes, les 10 pays participants sont maintenant rentrés dans les deux hôtels réservés à Edmonton pour devenir la bulle, si on veut, officielle du tournoi, un peu comme on l'a fait dans la Ligue nationale cet été. Alors, ce matin, j'ai parlé avec Jacob Pelletier en direct du JW Marriott à Edmonton, où il nous a parlé un peu de comment il entrevoyait les choses pour les prochains jours et surtout pour le tournoi. Donc, c'est un entretien extrêmement intéressant. Je me suis également entretenu ce matin avec John Goyens, l'ancien entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau, mais surtout celui qui a été l'entraîneur-chef pendant 3 ans de l'autre Québécois qui s'est taillé une place dans l'équipe, le gardien Devin Levi, un ancien des Lions du Lac-Saint-Louis. Il s'aligne maintenant et qui va s'aligner en janvier pour les Huskies de Northeastern dans les universités américaines, dans la NCAA. Il n'a pas eu la chance de jouer encore de match au niveau universitaire en raison de la pandémie, mais John Goyens connaît très bien Devin Levi et vous allez voir, c'est très intéressant ce qu'il a à nous dire sur ce gardien québécois qui est un peu méconnu des amateurs de la LHJMQ. En fin d'émission, on va également s'entretenir avec l'ancien capitaine de l'Océanique de Rimouski, Samuel Laberge, qui a commencé, lui, sa saison en fin de semaine dans la ECHL, parce que oui, la ECHL a débuté sa saison avec 13 équipes. On a présenté une dizaine de matchs en fin de semaine et Samuel Laberge évolue avec les Americans de Allen. C'est une petite ville du Texas. On va lui parler un petit peu plus tard au cours de l'émission. Alors, c'est le menu qu'on a pour vous au cours des prochaines minutes. Évidemment, la nouvelle de la semaine, ça a été la formation officielle vendredi d'équipe Canada Junior. On connaît maintenant les 25 joueurs qui vont représenter le Canada. Ça n'a pas été facile parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de profondeur, beaucoup de talent cette année dans l'équipe. Moi, ce que je retiens, on regarde la liste des 14 attaquants d'équipe Canada Junior parce que cette année, on en a gardé 14, habituellement c'est 13. 14 choix de première ronde au cours des 2 dernières années. Tu regardes la liste des 8 défenseurs, il y en a 8 cette année au lieu de 7, comme c'est le cas habituellement. 6 des 8 arrières, ce sont des choix de première ronde. Donc, 20 joueurs sur les 22 patineurs, là, si on exclut les gardiens de but, sont des choix de première ronde dans la Ligue nationale. Alors, à part quand les entraîneurs vont envoyer sur la patinoire Caden Korzak et Jordan Spence, 2 défenseurs, on est assuré d'une chose. Quand ces deux-là ne seront pas sur la glace, et je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, là, mais les 5 autres joueurs qui vont être là, ça sera tous des choix de première ronde dans la Ligue nationale. C'est du jamais vu dans l'histoire d'équipe Canada Junior. Même dans les bonnes années, le 95-2005, il n'y a jamais eu autant de choix de première ronde dans l'équipe. Les gardiens de but également ont été sélectionnés. Alors, si on fait le tour, si on analyse un peu cette formation, premièrement, il y a 4 attaquants qui sont de retour de l'an passé. Quinton Byfield, Dylan Cousins, Connor McMichael et Dawson Mercer des Saguenay-Chicoutimi. Évidemment, Kirby Dack, ce n'est pas une surprise qu'il était pour être là. Il a été prêté par les Blackhawks de Chicago. Il a joué 64 matchs dans la Ligue nationale l'an dernier, c'est évident. Il sera un des leaders d'équipe. D'ailleurs, il a été le meilleur pointeur pendant les matchs intra-équipe avec 7 points en 4 matchs. À certains moments, j'ai l'impression qu'il aura l'air d'un homme avec des enfants. Lui qui mesure 6 pieds 4, pèse 200 livres. Assurément un candidat là, pour être parmi les meilleurs pointeurs du tournoi, tout comme un gars comme Dylan Cousins qui avait récolté 9 points l'an dernier dans la compétition. 7 joueurs qui se sont taillés une place dans l'équipe cette année avaient été retranchés au camp l'an passé à 18 ans. Alors, c'est vous dire la différence entre les joueurs de 18 ans et les joueurs de 19 ans. L'an passé, on leur a dit non. Cette année, on leur a dit oui. Alors, grosso modo, donc, les trios à l'entraînement hier, et je ne dis pas que ce sera les trios quand la compétition va commencer, on avait Jack Quinn en compagnie de Cousins et de Dak. On avait Connor Zary en compagnie de Byfield et de Philip Tomasino. sur un troisième trio qui va peut-être être un trio un peu plus défensif. D'ailleurs, Jacob Pelletier va nous en parler tantôt. Pelletier complète Alex Newhook et Dylan Holloway, deux joueurs des universités américaines. Et là, il y a un quatrième trio, mais est-ce qu'on peut vraiment l'appeler un quatrième trio? Je ne suis pas certain. Connor McMichael a été placé là au centre avec Cole Perfetti. Perfetti, faut-il le rappeler, c'est un joueur de 100 points et plus l'an passé dans la Ligue de l'Ontario. Peyton Krebs complète ce trio. Et il reste comme 13e et 14e attaquant Dawson Mercer et Ryan Suzuki, le frère de Nick Suzuki, qui deux ans plus tard imite son frère et style lui aussi une place avec l'équipe canadienne. En défensive, bien évidemment, le premier duo, il n'y a pas de doute, c'est Bowen Byram et Jamie Drysdale, deux vétérans qui sont de retour de l'an dernier. Par la suite, on a deux gars qui avaient été retranchés l'an dernier, mais qui pourraient drôlement être importants cette année. Thomas Harley, choix de première ronde des Stars de Dallas, et Braden Schneider, un choix de première ronde des Rangers de New York. J'ai l'impression que quand le tournoi va commencer, on risque de les voir ensemble, mais présentement, pendant les dernières séances d'entraînement, ils n'étaient pas ensemble. Un duo qui a très bien fait pendant le camp, Caden Goulet, le premier choix du Canadien en octobre dernier, qui complétait à merveille Justin Barron des Mooseheads d'Halifax. Et il reste également comme deux autres arrières. Est-ce qu'ils seront les 7e et 8e? On verra bien. Caden Korzak, qui est là, de même que Jordan Spence, des Wildcats de Moncton. Spence est parmi tous les joueurs avant et défenseurs, celui qui a été repêché le plus loin, soit au 95e rang par les Kings de Los Angeles en 4e ronde en 2019. Les trois gardiens de but retenus, le Québécois Devin Levi, gardien qui, comme je le mentionnais plus tôt, a joué trois saisons avec les Lions du Lac-Saint-Louis. Dylan Garand, 18 ans, et Taylor Gauthier, 19 ans, un joueur, le seul de l'équipe Taylor Gauthier, qui n'appartient pas à aucune formation de la Ligue nationale. Dans le cas de Levi, il appartient aux Panthers de la Floride et Dylan Garand aux Rangers de New York. C'est l'équipe donc canadienne cette année, l'équipe 2021. 25 joueurs, il y en a 22 évidemment qui seront en uniforme à chaque match. Il faudra retrancher un attaquant, un défenseur et un gardien de but à chaque rencontre pendant le tournoi. Cette année, la Fédération internationale a permis 25 joueurs au lieu des 23 habituels, évidemment pour se protéger en raison de la COVID. Si jamais il y a des joueurs qui devaient tomber au combat, bien évidemment, il faut prendre des joueurs qui sont déjà à l'intérieur de la bulle. C'est extrêmement intéressant donc de constater cette formation remplie de profondeur, remplie de talent. Quatre joueurs au total donc de la Ligue junior majeure du Québec, Jacob Pelletier, Dawson Mercer, Jordan Spence et Justin Barron. Certains vont dire c'est peu, mais c'est la représentation de cette année. 20 des 25 joueurs ont 19 ans, les 5 qui ont 18 ans, il y a notamment Caden Goulet, le défenseur, il y a Jamie Drysdale qui est de retour de l'an dernier, Quinton Byfield qui est de retour de l'an dernier, les deux avaient 17 ans l'an passé, ils sont là. Cole Perfetti qui avait été retranché l'an dernier et comme je le mentionnais, le gardien Dylan Garand. Cette formation-là est présentement en quarantaine, comme toutes les autres équipes qui sont rentrées dans la bulle à Edmonton. Le Canada qui est arrivé hier à son hôtel à Edmonton vers 18h. Et là, chaque joueur a pris la direction de sa chambre et doit demeurer dans sa chambre pour 96 heures, soit pour les quatre prochains jours. On en a discuté avec Jacob Pelletier ce matin lors de notre entretien, lui qui est installé maintenant à son hôtel à Edmonton. Et vous allez voir, je ne savais pas si on avait aussi fait en sorte d'avoir des vélos stationnaires dans chacune des chambres. Jacob Pelletier va répondre à cette question. Alors voici cet entretien avec cet attaquant des Foreurs de Val-d'Or qui va représenter le Canada à compter du 26 décembre prochain. On le rejoint dans la bulle, sa nouvelle bulle maintenant, sa nouvelle chambre d'hôtel à Edmonton, Jacob Pelletier des Foreurs de Val-d'Or. Jacob, premièrement, merci de nous faire entrer juste avant de commencer l'entrevue. Je disais à la blague, est-ce qu'au moins c'est confortable pour un autre confinement? Parce que là, c'est pas 14 jours, c'est moins pire, c'est 4 jours, mais est-ce que tu as eu t'as l'impression que tu vas être bien là quand même?
Ouais, vraiment, écoute, je pense que c'est A1 ici, je pense que c'est justement la même hôtel que les gars de la NHL étaient. Fait que non, vraiment, c'est très bien lui, ça.
Comment est-ce qu'on va repasser ça encore, ce 4 jours-là? Est-ce que les gars, vous en avez parlé hier avant de vous laisser? J'imagine quoi, vous êtes laissé dans le lobby parce que là, vous n'avez pas le droit de fréquenter de chambre en chambre, c'est ça?
Non, exact, c'est ça. On s'est laissé hier dans le lobby. On est arrivé vers 6 heures hier. Mais tu sais, je pense pas que ça va nous affecter vraiment. Tu sais, je pense que c'est chaque équipe qui fait ça. On a passé un 2 semaines à le faire. Là, c'est simplement 4 jours. Fait que, tu sais, je pense que on sait à quoi s'attendre un peu. Puis là, c'est simplement 4 jours. Donc, je pense que ça va passer vite. Là.
Le stress est moins là aussi, là, même si certains joueurs, tu sais, étaient dans la position, je vais-tu rester, je vais-tu m'en aller. Là, au moins, on sait que le seul stress, évidemment, c'est de ne pas tester positif, mais ça, dans le fond, vous n'avez pas de contrôle là-dessus, là.
Non, c'est ça, exact. Je pense que vu que les coupures sont faites, le club est fait, il n'y a plus vraiment de stress à avoir. Je pense qu'il reste simplement à nous préparer là, pour le tournoi qui s'en vient.
Est-ce qu'on sait comment l'équipe Canada va faire là, pour les 4 prochains jours? Parce que là, je ne pense pas que vous allez avoir encore un vélo stationnaire dans votre chambre, là, à moins que je me trompe, là. Alors...
Direct, là, on
Ah,
s'entend.
ben écoute, Tavernouche, merci de me faire partager. On a vraiment pensé à tout. Donc, les vélos stationnaires ont suivi de Red Deer à Edmonton. Ben.
Ouais, c'est ça, exact. On est arrivé hier, il y avait un vélo ici. On a eu des cordes à danser, des bandes pour quelques exercices aussi. Fait qu'on va avoir des workouts à chaque jour, on va avoir des meetings aussi. Fait que je pense que ça va passer vite, même pour ça, là.
Là, en principe, c'est quoi? C'est vendredi le retour sur la glace, hein?
Honnêtement, j'ai aucune idée. Je pense que c'est juste ça. Je pense que c'est 4 jours. Fait que je pense que vendredi, on va pouvoir pratiquer. Puis on a un match encore pour le 21, si ma mémoire est bonne.
OK, je veux qu'on revienne sur quand on a annoncé la nouvelle que vous faisiez partie de l'équipe. J'ai vu le petit vidéo là, qui circule sur les médias sociaux. Je pense qu'Hockey Canada a fait en sorte que vos parents partagent ce moment-là avec vous. Toi, qu'est-ce que ça t'a fait, là? Comment t'as vécu ça?
J'ai trouvé ça très le fun, tu sais, parce que je pense que c'est grâce à eux que je suis ici aujourd'hui. Mes frères étaient là, mes grands-parents aussi. Fait que, tu sais, de pouvoir vivre ça ensemble, même si on est loin, tu sais, je pense que ça fait ça, tu sais, très, très le fun à vivre, là.
Jacob, la dernière journée, avant les dernières coupures, tu as parlé aux médias, puis tu sais, tu disais, je suis encore nerveux, il reste un match ce soir. Est-ce que tu étais vraiment nerveux ou si dans ta tête, c'était pas mal fait, l'équipe, là? Moi, j'aurais aimé ça t'appeler en privé puis te dire, regarde, arrête de t'inquiéter, là, mais est-ce que tu sentais vraiment que c'était, il y avait une nervosité encore? Ou?
Quand même, écoute, je pense qu'il restait 6 attaquants coupés, 6 ou 7. Puis, je veux dire, rendu là, c'était pas mal juste des choix de première ronde. Fait que, je pense pas que ma place était faite à 100% encore. Je pense que j'avais quand même des très bonnes chances. Mais tant que je suis pas sûr à 100%, je vais toujours avoir un petit stress, là.
Depuis le début des matchs intra-équipe, en tout cas depuis la reprise, tu as joué beaucoup avec, je les appelle les deux gars de collège, là, Alex Newhook puis Dylan Holloway. Ça a l'air à bien fonctionner pour vous. Ce trio-là n'a pas été touché du tout. C'est quoi au juste ce trio-là pour l'équipe canadienne? Qu'est-ce que ça va faire dans le tournoi, ce trio-là?
Je pense que ça va être une ligne, on va pouvoir être shutdown, on va pouvoir jouer contre les meilleures lignes adverses, on va pouvoir apporter de l'offense un peu aussi. Je pense qu'on est 3 gars qui travaillent fort, qui patinent vite. On va pouvoir mettre beaucoup de pression aussi sur les défenseurs adverses. Donc pour moi, de pouvoir jouer avec Newey et Halls, je pense que c'est 2 très, très bons joueurs. Puis je suis prêt. Je suis chanceux de pouvoir jouer avec eux autres.
L'an passé, on se souvient, tu avais vécu la déception d'être blessé, d'avoir une commotion là, juste avant. Qu'est-ce que ça représente pour toi de finalement faire partie de cette aventure-là? C'est sûr que c'est pas la même chose que quand tu le regardais à la télé quand tu étais plus petit parce qu'il n'y aura pas de spectateurs puis tout ça, mais au moins c'est au Canada, puis au moins tu as la chance de le vivre quand même, hein?
Ouais, c'est ça, tu sais. Justement, je pense de pouvoir représenter mon pays. À ce tournoi-là, tu sais, je veux dire, c'est mon rêve depuis que quoi, j'ai 5-6 ans. Je pense que c'est quand même gros. C'est un des plus gros tournois à vie, presque. Fait que, tu sais, je veux dire, de pouvoir participer, de pouvoir enfin, justement, prouver au monde que je pouvais être ici. Tu sais, je veux dire, je pourrais pas demander mieux, là.
Alex, je ne veux pas en faire un épisode de politique ou quoi que ce soit, là, mais vous êtes deux Québécois dans l'équipe. Il y en a un, Devin, on le connaît moins dans la LHJMQ parce qu'il a joué à la Midget 3A et tout ça. Tu es le gars de francophone de la LHJMQ. Il y en a juste un, c'est toi. Sens-tu un genre de pas de pression, mais de vouloir encore plus bien faire pour représenter la province, peut-être, puis la LHGMQ. Il y a d'autres gars de la LHGMQ, là, des gars des Maritimes, là, mais toi, personnellement, là.
Ouais, c'est sûr, tu sais, je pense que je suis fier d'être un Québécois. Je veux représenter le Québec aussi. Fait que je me mets pas de pression, mais tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça ramener l'or.
Même la ville de Québec n'a pas été beaucoup représentée dans l'équipe Canada Junior au fil des ans. Il y a quelqu'un qui me faisait remarquer là, qu'il n'y en a pas eu beaucoup depuis Patrice Bergeron là, en 2005. Là. C'est quelque chose aussi pour même ton coin de pays encore plus, là.
Ouais, vraiment, tu sais, je pense que justement, la ville de Québec, pense pas qu'elle en ait eu beaucoup, comme que tu disais, fait que, tu sais, de pouvoir justement être un de ces très peu-là, c'est très fun pour moi, puis j'espère les représenter de la meilleure façon possible.
Jacob, quand on regarde votre alignement, là, 20 choix de première ronde dans l'équipe, les 14 attaquants, c'est tous des choix de première ronde. À part quand l'équipe Canada Junior va utiliser deux défenseurs, il va toujours avoir que des choix de première ronde sur la patinoire. Les gens ont tendance à se dire, ça peut pas fonctionner. C'est quoi peut-être votre plus grand défi là, d'être trop confiant ou de penser que ça va peut-être être facile, quoi?
Bon, justement, tu sais, je pense que depuis probablement que quand il a commencé, tu sais, je pense que le monde pense que ça va être pas facile, mais qu'on devrait remporter le tournoi haut la main. Mais tu sais, je veux dire, je pense que oui, il y a beaucoup de choix de première ronde, mais il faut que ça marche ensemble pour pas que justement on soit trop confiant ou qu'on se pense trop bon. Je pense qu'il y a des excellentes équipes ici, puis je pense que ça va être simple. Je pense qu'il va falloir qu'on soit l'équipe qui travaille le plus.
Il y a 11 joueurs dans votre équipe vous avez gagné la médaille d'or ensemble avec André Tourigny là, au tournoi Linka Gretzky. Bon, malheureusement pour toi, tu avais fini le tournoi là, sur la liste des blessés, mais tu faisais quand même partie de l'équipe. Ça aide, ça aussi, même si vous êtes des gars d'un peu partout au Canada, vous vous connaissez quand même pas mal. Le noyau de l'équipe se connaît quand même beaucoup, puis vous avez une bonne relation avec l'entraîneur aussi, là.
Ouais, vraiment, tu sais, je pense que ça pourrait jouer un petit peu pour nous. Tu sais, on se connaît probablement tous. On connaît Bear aussi. Tu sais, on a passé un mois justement ensemble, là, donc 2 semaines en quarantaine, où on faisait plein de jeux et tout. Fait que je pense que notre chimie est là. Puis il reste aussi, là, tu sais, 2 semaines là, pour se préparer, là.
Kirby Dack joue avec vous. C'est une chance de l'avoir. C'est un gars qui a de l'expérience de la Ligue nationale. Il a joué dans la bulle cet été à Edmonton. Est-ce que tu le vois comme le grand leader de cette équipe-là? Quel genre de bonhomme c'est, là, lui, pour lui, il revient avec des jeunes de 19 ans quand ça fait un an, dans le fond, qu'il passe avec des gars qui parlent de bébés puis d'hypothèques, comme je dis souvent, là, quand un jeune revient comme ça. Est-ce que tu le sens comme le vrai leader de votre équipe ou?
Ouais, tu sais, je pense que lui, Bowen, Byram, puis Cousins, tu sais, ils ont pas mal pris charge un peu. Ils savent qu'ils vont être des grands leaders pour nous. Tu sais, je pense que Kirby, ça paraît que l'an passé, il a joué avec des hommes. Il est très bon, il est très gros. Je pense vraiment que ça va être le meilleur joueur ici au tournoi. Puis, c'est ça, tu sais, je pense que on est très chanceux, là.
Ben écoute, Jacob, on va te souhaiter que ça se passe bien. On va souhaiter que tout soit comme on veut que ce soit. Vous avez travaillé tellement fort là, pour vous rendre là, d'avoir passé la quarantaine puis tout ça. Je pense qu'on peut juste vous souhaiter là, le meilleur puis que le 5 janvier, vous puissiez jouer pour la médaille d'or. Je pense que c'est ça le rêve de tous. Merci beaucoup, Jacob. Puis lâche pas, on est derrière vous autres.
Ben, merci à toi.
Des Foreurs de Val-d'Or qui nous parlait depuis sa chambre d'hôtel à Edmonton. Lui qui est maintenant, comme le reste de l'équipe canadienne, en confinement là, pour les 4 prochains jours, reçoit ses repas à la porte de sa chambre d'hôtel. Les joueurs, tout le monde qui est entré dans cette bulle-là porte un bracelet pour être certain qu'on ne brise pas, entre guillemets, les règles imposées par la Fédération internationale. Question de créer une bulle des plus étanches, un peu comme ça s'est passé avec la Ligue nationale cet été à Toronto et aussi à Edmonton. Il y a des grillages autour de l'hôtel, des deux hôtels en fait à Edmonton où logent les joueurs et les membres du personnel là, pour chacune des équipes. Chaque délégation avait droit à 40 personnes à l'intérieur de la bulle. Ça comprend évidemment les joueurs. Certains pays là, sont encore 27 ou 28 joueurs, devront donc retrancher des joueurs et retourner des joueurs à la maison lorsque le tournoi va commencer. D'autres équipes ont vraiment nommé leur personnel de 25 joueurs et plus ceux qui accompagnent l'équipe à l'intérieur de la bulle. Je veux parler également de ce qui s'est passé la semaine dernière. Évidemment, on a retranché des joueurs. On a dû aussi retourner des joueurs à la maison sans même qu'ils puissent revenir sur la glace au terme de la fameuse quarantaine de 14 jours. On pense entre autres à Xavier Simoneau des Voltigeurs de Drummondville qui finalement aura été passé 18 jours en Alberta, aura à peine touché la glace et a dû être retourné à la maison parce qu'il avait été en contact et qu'il avait déjà eu un test positif et qui est un faux positif. On ne sait pas vraiment exactement, mais à chose certaine, lui et quatre autres coéquipiers ont dû être retournés à la maison sans même avoir la chance de se faire valoir. Par la suite, il y a eu deux séances de retranchement, une jeudi, une vendredi. Maverick Bourque, Hendrix Lapierre, Lucas Cormier et Samuel Poulain ont été retournés à la maison. Dans le cas de Bourque, Lapierre et Cormier, ils ont 18 ans, pourront assurément se reprendre l'an prochain. Dans le cas de Simoneau et Poulain, malheureusement, c'est la fin de la possibilité de jouer pour l'équipe Canada Junior parce qu'ils ont 19 ans. C'était pas facile, on l'a dit. Il y avait 27 choix de première ronde sur 46 joueurs au début du camp d'entraînement. Alors, des choix de première ronde, on en a laissé de côté. La profondeur est là cette année. Et comme André Tourigny l'a mentionné, ce n'est pas tellement que Bourque, Lapierre ou Poulain n'ont pas été bons. C'est que les autres ont peut-être fait un petit peu plus, ont eu quelque chose de plus qui a fait qu'on est allé dans cette direction-là. Des fois, ça ne tient pas à grand-chose. Ça devient une question de combinaison, de chimie, tout ça. Alors, c'est dommage pour Samuel Poulain. Peut-être que son passé avec Hockey Canada aussi aura joué dans la balance. Lui, comme je le mentionnais la semaine dernière, n'a pas toujours performé à la hauteur des attentes lorsqu'il a fait partie des programmes des moins de 18 ans et des moins de 17 ans. Il a été lui-même d'ailleurs le premier à le reconnaître. Petit mot également sur ce qui s'est passé avant d'enchaîner, sur ce qui s'est passé avec l'équipe américaine également. Il y a un Québécois, Thomas Bordeleau, qui samedi matin a appris que son co-chambreur, John Beecher, avait été testé positif à la COVID. Le règlement de la Fédération internationale est clair. Un test positif après le 29 novembre, t'es exclu du tournoi. Alors, Bordeleau, par la porte de côté, parce que lui n'avait pas été testé positif, mais qu'il avait fréquenté, était dans la même chambre qu'un joueur qui a testé positif, il a été lui aussi exclu de la formation américaine. Tant et si bien que la formation américaine a dû nommer son personnel de 25 joueurs et a seulement 13 attaquants et 9 défenseurs dans l'équipe. Parce que normalement, Beecher et Bordeleau auraient fait partie des cadres de la formation. Beecher, qui est un vétéran de l'an dernier. Et le pire de l'histoire, semble-t-il, on n'a pas de confirmation, mais on a vu ça passer sur les médias sociaux, c'est que lorsque Beecher est revenu à la maison, il a passé un autre test qui s'est avéré être négatif. Alors peut-être que le test qu'il avait reçu du temps où il était dans l'espèce de confinement de l'équipe à Plymouth aux États-Unis était un faux positif. On ne le saura peut-être jamais. Chose certaine, Beecher a été exclu et par le ricochet, Bordeleau aussi. Dans le cas de Bordeleau, il a 18 ans, pourra se reprendre l'an prochain, mais c'est vraiment dommage. Lui qui connaissait un excellent début de saison avec l'Université du Michigan. Il y a eu plusieurs cas également de joueurs qui ont testé positif là, dans les nations européennes avant que celles-ci s'envolent vers Edmonton. Là, au moins, la bonne nouvelle, c'est que tout le personnel est en place à Edmonton. Les équipes observent présentement la quarantaine et pourront reprendre les séances d'entraînement à compter de vendredi. On a parlé tantôt à Jacob Pelletier, on disait qu'il y avait deux Québécois dans l'équipe. L'autre Québécois, c'est le gardien Devin Levi, qui est en lutte avec Dylan Garand et Taylor Gauthier pour peut-être obtenir le poste de gardien numéro un. Jeudi dernier, dans le dernier match intra-équipe, Levi a joué 60 minutes pour la première fois depuis le 1er mars, alors qu'il évoluait encore avec Carlton Place dans la Ligue junior de l'Ontario. Et il a fait toute une impression. Il a blanchi l'équipe des Blancs qui avait gagné ses trois premiers matchs dans les matchs intra-équipe. Devin Levi a effectué 36 arrêts. Est-ce qu'il a laissé le message qu'il était prêt pour obtenir le poste de gardien numéro un de cette formation? Lui qui, rappelons-le, a joué Midget 3A pendant trois saisons avec les Lions du Lac-Saint-Louis et son entraîneur John Goyens, qu'il connaît très bien, a joué l'an passé à Carlton Place Juniora et cette année devait faire le saut aux États-Unis avec Northeastern. la même université avec laquelle évolue Jordan Harris, un espoir du Canadien, qui, actuellement, entre parenthèses, a été choisi joueur de la semaine là, dans Hockey East. 2 buts et 3 passes pour l'Américain qui est maintenant âgé de 20 ans, qui est trop vieux là, pour représenter son pays cette année au Mondial Junior, mais qui a joué pour les États-Unis l'an passé. Alors, Levi va jouer pour l'Université Northeastern au retour du Mondial Junior. Et ça me tentait ce matin de faire un brin de jasette avec John Goyens. On est revenu d'abord sur l'épisode qu'il a dû quitter le Drakkar de Baie-Comeau en début de saison. On sait qu'il avait été embauché l'an dernier, a dirigé le Drakkar pendant une saison et cette année, en début de saison, a décidé de démissionner, de rentrer à la maison. Alors, il va nous expliquer un petit peu pourquoi, mais il va surtout nous parler de Devon Levi. Et écoutez bien ce que John Goyens a à dire sur ce jeune gardien de 19 ans. Levi va peut-être être un élément extrêmement important là, pour le Canada au Mondial Junior. Voici donc cet entretien avec John Goyens. Mon invité, c'est John Goyens, qui est bien connu dans les milieux du hockey au Québec. Il a longtemps été l'entraîneur-chef des Lions du Lac-Saint-Louis dans la Ligue Midget 3A. A dirigé le Drakkar de Baie-Comeau l'an dernier. Finalement, à raison un peu de la pandémie, a décidé de revenir chez lui dans la région de Montréal en début de saison. Peut-être, John, merci premièrement d'accepter l'invitation. Et peut-être juste clarifier cette partie-là, ton départ du Drakkar de Baie-Comeau, ça s'est fait quand même rapidement, le jeu juste avant le début du camp d'entraînement.
Ouais, écoute, l'incertitude de plusieurs choses avec la pandémie, par exemple, Air Canada, il y avait plus ou moins plus de vols. Et je dis ça parce que quand j'avais choisi d'accepter l'offre de Steve Ahern, un aspect avec une jeune famille qui était pour faciliter les choses, c'est que ma famille peut prendre l'avion assez facilement pour venir me voir passer du temps, ou même si j'avais un 3 jours, 2-3 jours, peut-être avec peut-être une pratique, je pouvais revenir chez nous. En plus, avec la pandémie, il y avait d'autres choses que je veux pas comme trop en parler, mais il y avait trop d'incertitudes. Quand est-ce que je peux voir ma famille encore? Et tu dois me payer, je sais pas c'est quoi le montant pour être dans une situation où je ne vois pas ma famille pour 4-5 mois à la fois, avec un petit garçon qui devient juste avoir 4 ans et qui était malade l'année passée, qui a passé une semaine et demie dans l'hôpital, avec les choses personnellement qui ont arrivé avec ma famille l'année passée, je pensais que c'était un stress qui peut-être va nuire mes habiletés comme coach et je ne voulais pas mettre ça sur les joueurs, l'organisation ou ma famille.
John, est-ce que quand tu regardes la saison que tu as passée à Baie-Comeau, est-ce que tu en retires quand même une expérience positive? Parce que ça faisait longtemps que ton nom circulait, que tu étais dans le Midget 3A, puis on se disait, ben, peut-être un jour, il aura la chance de venir dans la LHJMQ. Quand tu regardes peut-être un an plus tard, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là?
La plupart des choses, sauf les choses que je deviens juste de mentionner avec ma famille, c'était vraiment, vraiment positif. C'était un beau défi parce que pendant les étés, je travaillais toujours avec les gars qui montaient du Midget 3 dans les nouveaux juniors ou collèges et même professionnels. Et je me demandais tout le temps, est-ce que je suis prêt à gérer un banc, gérer une équipe à ce niveau-là? Les joueurs m'ont bien accepté. C'était vraiment un peu plus facile pour commencer. Tu avais un gars comme Gabriel Fortier comme capitaine. Mais avec tout ce qui s'est passé, même avec tout le voyagement qu'on fait, c'était... Honnêtement, ça m'a donné un peu plus un coach pas établi, si tu veux, parce que là, pendant la pandémie, j'ai fait Coach's Café avec tous les entraîneurs pendant 6 mois. C'était pas juste « Ah, c'est juste un coach hockey mineur, c'est juste un coach midget » ou quoi que ce soit. Et non, ça a bien déroulé et mes expériences sont positives.
Tu ne fermes pas la porte à un retour éventuellement au niveau junior si jamais l'occasion se présente puis que peut-être géographiquement, c'est plus facile? Quoi.
Non, pas du tout. Écoute, on espère que sans une pandémie aussi, ça va aider les choses. Mais non, je ne ferme pas la porte du tout.
John, une des raisons que je voulais te parler cette semaine sur le podcast, c'est peut-être toi qui connais le mieux le gardien Devon Levi qui s'est taillé une place avec l'équipe canadienne junior qui... Écoute, il a joué l'an passé dans les rangs junior A, il devait jouer NCAA cette année, il n'a pas eu la chance de jouer de match encore. Là, il arrive avec Équipe Canada. On ne sait pas encore au moment où on se parle s'il sera le gardien numéro 1, s'il sera le gardien numéro 3. Parle-moi un peu de ce bonhomme-là. Tu l'as dirigé pendant 3 ans. Il a été exceptionnel pour votre équipe. Il était là, entre autres, quand vous avez stoppé les fameux Chevaliers de Lévis en série. Quel genre de gars? C'est, ça a l'air spécial. Je lui ai parlé quelques fois. J'écoute ses entrevues, puis il parle souvent des caméras qu'il place lui-même sur son filet pour s'améliorer. Puis tout ça, c'est un jeune homme un peu différent. Est-ce que je me trompe?
Non, tu te trompes pas. Généralement, on dit ça, la plupart des gardiens de but sont différents. Mais avec Devin, une chose, ça, même avant qu'il parle, tu vois la façon qu'il a une sourire sur sa face. C'est rarement que tu vas voir ou que tu vas rencontrer Devin Levy qui va être pas content. C'est infectious, en anglais, on dit. Depuis qu'il est jeune, il est comme ça. Et même quand il est arrivé avec les Lions, et je pense trop souvent, le monde disait qu'il a passé 3 ans, il aurait dû pas jouer. Le monde oublie qu'il est à 4 ou 5 jours d'être un 2002. Ça veut dire que 3/4 de sa première saison, il a passé comme 14 ans. C'est comme presque un surclassement. Mais nous autres, on connaît depuis qu'il est vraiment jeune. Ça fait partie un peu des choses qu'on fait avec les Lions, c'est on travaille avec les plus jeunes aussi. Et on voyait avec Devin, c'est premièrement, on ne parle même pas de la technique. Il compétitionne, il est coachable, et il étudie la game. Il étudie lui-même. Et avec les choses, avec les vidéos, ça c'est... Tu sais, on peut suggérer des choses, mais lui, il prend ça toujours à un autre niveau. Et c'est la même façon qu'il gère l'école. Tu sais, c'est un jeune homme que pendant 5 ans à West Island College, je pense que sa moyenne en 5 ans à l'école, c'était 96 ou 97. Et c'est pas dans Nintendo 101. Tu sais, c'est toujours dans les sciences les plus hauts, les maths les plus hauts. Il aime le challenge de gérer son temps, du time management. Et c'est un gars qui arrive à l'aréna toujours content, toujours donne la main à chaque coéquipier. C'était tellement fun de coacher un jeune comme ça. Mais même aujourd'hui, on blague un peu. Tu sais, c'est un nerd ou quoi que ce soit, mais c'est pas comme un insulte. Il prend ça comme, oui, je suis un nerd un peu. Mais en même temps, on fait des blagues. Est-ce que tu es en train encore de regarder tes SpongeBob, tes bandes dessinées SpongeBob? Parce qu'il était comme un petit enfant, tu sais, en anglais, on dit « a kid in a candy shop ». Tu sais, il était toujours comme ça à l'aréna. Et passer 3 ans avec lui, et même depuis qu'il a joué avec nous autres, tu sais, un gars comme ça te rend meilleur comme coach et personne.
On s'entretient avec John Goyens, ancien entraîneur des Lions du Lac-Saint-Louis. On parle du gardien Devin Levi. Est-ce que tu as l'impression qu'il va réussir à convaincre Hockey Canada de peut-être lui donner le poste? Parce qu'on dit de lui, il n'a pas joué dans la Ligue canadienne de hockey ces 2 dernières années. Il joue à 17 ans, Midget 3A, 18 ans, Carlton Place Junior A. C'est peut-être pas le plus gros calibre non plus. Est-ce que tu as l'impression qu'il va réussir à supplanter des gars qui ont peut-être plus de millage que lui au niveau de la Ligue canadienne de hockey?
C'est un joueur que je doute jamais. Parce que tout le monde, la plupart du monde le doutait quand il était plus jeune. Il est trop petit. Il est resté trop longtemps. Et tu vois, il est rendu numéro 1 avec l'équipe Canada Junior A l'année passée. Il était incroyable pendant la demi-finale et finale contre la Russie qui ont perdu en prolongation. C'est un gars, il était supposé d'être trop petit pour la Ligue nationale, pour le repêchage. Trop de monde le doute. Et lui, je pense qu'il prend ça pas comme un chip sur son shoulder, mais plus comme il aime ça. Il aime se faire douter par les autres. Mais moi, je le doute jamais. Et même s'il est rendu deuxième, il va être le meilleur coéquipier que tu peux avoir dans ce scénario.
C'est vraiment un gardien spécial. Il s'en va à Northeastern. C'est un choix de 7e ronde. Ça fait un peu penser à Caden Primo. Le Canadien a repêché Caden Primo en 7e ronde aussi. Il est allé à Northeastern aussi. Je sais qu'il m'avait dit dans l'entrevue qu'il pouvait peut-être s'inspirer d'une histoire comme cela. Est-ce que tu as l'impression qu'il va rester 4 ans à l'université ou s'il va signer un contrat auparavant?
Moi, je pense qu'il va rester au moins 3 ans. La raison que je dis ça, c'est parce que le pourcentage de la réussite scolaire d'un joueur qui reste au moins 3 ans, je pense que c'est à peu près 85 ou 90 % des joueurs qui restent au moins 3 ans vont réussir à avoir le diplôme. Ça baisse beaucoup si tu restes seulement 2 ans. Et je sais pour Devin, même le hockey professionnel, la Ligue nationale et son diplôme, pour lui, ça vaut presque la même chose. Et je pense que ce n'est pas un jeune homme qui veut sauter dans les rangs professionnels et avoir des doutes qu'il aurait dû rester un autre an, une autre année. Tu vois, comme un Mike Matheson, il a resté 3 ans. Il a eu son diplôme. Jeremy Davies, il est à un cours. Il a resté 3 ans. Il y en a plusieurs. Moi, je pense qu'il va rester minimum 3 ans. Et en plus, ça va lui donner plus de temps à maturité physiquement, mentalement, et soit plus prêt pour les rangs professionnels.
Ça va être intéressant donc de suivre son cheminement avec Équipe Canada Junior. On devrait en avoir des nouvelles, disons, la semaine prochaine, quand il y aura les matchs préparatoires. Ça va nous donner une idée un petit peu dans quelle direction Hockey Canada s'en va, parce qu'en ce moment, ils n'ont pas l'air à trop savoir. John, avant de te laisser aller, pas de hockey Midget 3A cette année. On parle de peut-être commencer en janvier en ce moment. Toi qui es impliqué longtemps dans la Ligue, dans le développement des joueurs, quel effet ça va avoir tout ça pour ce groupe de joueurs-là cette année-là qui est censé jouer Midget 3, les 2004, comme on dit, là, est-ce qu'ils vont être affectés en ce moment?
Je pense que tout le monde est affecté, mais je pense que s'ils sont capables de commencer au mois de janvier, je pense que c'est une solution. Tu sais, c'est tout le monde, tu sais, il y en a plusieurs équipes qui ne pratiquent même pas en ce moment, les Lions, par exemple, parce qu'ils n'ont pas les bulles scolaire parce que la majorité des joueurs vont à plusieurs écoles. C'est un scénario pas unique juste au Lyon, mais ça veut dire que la plupart, ils n'ont pas pratiqué. Ça veut dire que s'ils commencent janvier, je pense que ça va commencer lentement, mais la plupart des équipes juniors, on sait maintenant, ils ont commencé à faire le dépistage au niveau bantam. Et je pense que c'est là, avec les 3 mois, 4 mois qui vont jouer fin d'hiver et printemps, et avec les rapports des entraîneurs, avec le caractère du joueur, la façon qu'il est coachable, la façon qu'il pratique, je pense que les références des entraîneurs vont avoir un gros morceau de l'aspect du draft pour plusieurs 2004.
Ça va être intéressant à surveiller. On va espérer que ça va commencer bientôt. John, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. On va te souhaiter de joyeuses fêtes avec ta famille, puis sûrement te revoir derrière le banc d'une équipe très, très, très bientôt. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
John Goyens avait à dire sur ce Devin Levi, et il a raison. Hein? Devin Levi est né le 27 décembre 2001. Alors, quand il a joué à 15 ans dans la Ligue Midget 3, c'était presque un joueur de 14 ans à qui on avait donné une permission spéciale. S'il avait vu le jour 5 jours plus tard, il aurait été, comme disait John, un 2002. Alors oui, il a joué à 15 ans à Lac Saint-Louis Midget 3A, mais c'est comme s'il avait 14 ans. Il a joué à 16, a joué à 17, parce qu'évidemment, il ne voulait pas prendre l'avenue de l'Armada de Blainville-Boisbriand, qui l'avait sélectionné et qui a bien tenté de le convaincre de venir jouer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Finalement, il a pris un autre chemin. L'avenir dira où il pourra se rendre, mais chose certaine, c'est une belle histoire que celle de Devin Levi. Et au cours des prochains jours, là, il n'y a pas d'entraînement avant jeudi ou vendredi. Je ne sais pas si dans la tête des dirigeants de Hockey Canada, on a cheminé beaucoup avec le poste de gardien de but, parce qu'on l'a dit souvent depuis le début, c'est peut-être le poste où il y a un point d'interrogation, dans le sens où il n'y a pas de Yaroslav Askarov comme les Russes ont, ou de Spencer Knight comme les Américains ont, pour amorcer ce championnat mondial-là avec Garin, Gauthier et Levi. Mais l'an passé, souvenez-vous, Joel Hofer et Nico Daws sont venus d'un peu nulle part. Daws a amorcé le tournoi. Hofer a pris la relève à un certain moment. Daws n'était pas repêché dans la Ligue nationale. Hofer est un choix de 4e ronde et ça n'a pas empêché le Canada de finalement se sauver avec la médaille d'or en République tchèque. Alors voilà un peu qui complète notre segment sur le mondial de hockey junior. On va évidemment suivre ça tout au long de la semaine dans nos émissions. Je vous rappelle que lundi prochain, le 21 décembre, on va faire un Sur la glace, notre dernière édition avant Noël. Mais c'est aussi cette journée-là, à 18h, que le Canada va sauter sur la patinoire pour son premier de deux matchs pré-compétition. Le Canada qui va affronter la Suède le 21 décembre à 19h et va affronter la Russie le 23 décembre à 18h. Des matchs qui seront présentés sur les ondes de RDS. Je fais une petite parenthèse avant d'aller plus loin aussi. On m'a beaucoup posé la question sur les médias sociaux. Est-ce que tu vas aller à Edmonton cette année? Est-ce que tu vas faire la description? En raison de la pandémie cette année, RDS va faire la description des matchs en studio. Je vais demeurer à Montréal cette année pour décrire la plupart des matchs. On a deux équipes pour la diffusion des matchs à RDS. Je serai avec Normand Fine sur une équipe. L'autre équipe, ce sera mon collègue Michel Lacroix avec Bruno Gervais. Je vais décrire donc les matchs du Canada, les matchs également de demi-finale et de finale. RDS va envoyer dans la bulle, il quitte demain d'ailleurs, je vais le saluer, notre collègue Patrick Priolet qui va devoir lui aussi se soumettre à une quarantaine enfermée dans sa chambre d'hôtel de 4 jours à son arrivée à Edmonton demain. Et par la suite, il aura la chance de côtoyer les joueurs d'un peu plus près, de pouvoir faire des entrevues, d'avoir le pouls du vestiaire. Alors cette année, pour la première fois en 23 ans, ça me fait un peu drôle de le dire, mais je ne serai pas au championnat du monde de hockey junior physiquement. On espère que l'an prochain, les choses seront revenues plus à la normale et qu'on pourra se rendre sur place à Edmonton pour, évidemment, la description des matchs. Mais soyez assurés d'une chose, toute notre équipe va mettre tous les efforts dans le temps des fêtes pour vous présenter le plus de matchs possible. C'est une tradition, le championnat du monde de hockey junior dans la période des fêtes à RDS. Ce n'est pas parce que c'est dans une bulle à Edmonton qu'on n'y sera pas. On sera là, vous ne raterez pas grand-chose. Et notre équipe va tout mettre en œuvre. On le sait également qu'il n'y a pas d'autre hockey qui se joue présentement et que le championnat mondial de hockey junior va attirer beaucoup, beaucoup l'attention dans le temps des fêtes. Je le disais en début d'émission, la ECHL, les gens appellent encore ça la East Coast Hockey League, mais ne porte plus officiellement le nom de East Coast Hockey League, la ECHL, dont il y aura une équipe à Trois-Rivières l'an prochain, une équipe d'expansion au Québec pour la première fois, a commencé ses activités en fin de semaine. Vendredi et samedi, on a présenté 5 matchs vendredi, 5 matchs samedi. Alors, ça me tentait d'avoir le pouls un peu de comment ça se passait aux États-Unis pour la ECHL. Alors, on a rejoint hier matin Samuel Laberge, ancien capitaine de l'Océanique de Rimouski, qui a amassé 3 passes à son premier match samedi avec les Americans de Allen. C'est où ça, Allen? C'est au Texas, pas tellement loin là, de Dallas. Samuel Laberge, donc, qui est parti rejoindre cette formation-là. Il a amorcé sa saison. On a fait un brin de jasette avec lui. On vous présente ça à l'instant. On s'en va à Allen, au Texas. C'est pas souvent qu'on a la chance d'aller faire une entrevue dans ce coin-là des États-Unis pour rejoindre l'ancien capitaine de l'Océanique de Rimouski, Samuel Laberge. Samuel, premièrement, merci de prendre le temps de jaser avec nous. Ça se passe comment, la vie à Allen, au Texas, présentement?
Ça se passe bien, la température est belle. C'est sûr qu'on est chanceux de jouer au hockey en ce moment avec les conditions, là, avec tout ce qui se passe avec le COVID. Là. Fait que, ça se passe bien. On a eu notre premier match de la saison hier à Tulsa.
Ouais, c'est ça. Pour rappeler aux gens, une des raisons pour lesquelles on voulait te parler cette semaine, c'est que tu as décidé de faire un retour aux États-Unis après une année au Québec dans la ECHL, ce qu'on appelait avant la East Coast. Et en fin de semaine, on a joué 10 matchs de hockey là, dans la East Coast Hockey League. Il y en a eu 5 vendredi, 5 samedi. Toi, tu joues avec les Americans de Allen. Vous avez joué à Tulsa. Je regardais, il y avait quoi, 2500 spectateurs? On est quand même capable d'accueillir des gens?
Oui, il y avait quand même des gens. Là. C'est sûr que c'est pas... C'est pas les mêmes foules que d'habitude, mais au moins, il y a des gens avec une bonne distanciation là, dans les estrades.
OK. Qu'est-ce qui explique que tu as décidé de faire un retour? Je regardais peut-être que les transferts se sont faits avant, mais c'est une décision quand même récente, je pense, que tu as pris de retourner dans la ECHL cette année.
Oui, dans le fond, l'année passée, pour des raisons familiales puis personnelles, là, j'avais décidé de prendre une année pour moi, revenir à la maison puis être proche de la famille. J'avais pas la tête, j'avais été au camp Manitoba, les Moose, puis j'avais pas la tête au hockey, fait que j'avais décidé de revenir à la maison. Puis, vas-y.
Tu connais quand même la région là, du Texas, tu as joué là dans la Ligue américaine, tu as joué là dans la CHL aussi, je pense. ton parcours, là, c'est, comment tu as fait de te retrouver là après ton séjour avec l'Océanique? Hein?
Ben, dans le fond, moi, après à 19 ans, là, j'ai eu un offre d'un an dans la Ligue américaine avec le Texas, là, puis à Austin. Puis après mon année, là, j'ai re-signé une autre année. Puis c'est ça. Là, après ça, la deuxième année, c'était une année difficile. Puis comme je disais, là, quand je suis revenu à la maison, il y a eu d'autres complications familiales. Puis c'est ça. Là, cette année, dans le fond, l'année passée, j'ai eu une très belle année à Sorel, là, qui j'ai vraiment eu du plaisir. Puis cette année, j'avais signé avec le Thunder des Adirondacks. Puis ils ont décidé de canceller la saison. Il y a peut-être 2 semaines, 2, 3 semaines, on a eu un appel comme quoi qu'il y a 16 équipes qui cancellent leur saison. Fait que là, on se retrouvait avec. Je me retrouvais avec plus de travail. Fait que on a regardé les options, puis finalement, on a pu signer à Allen.
Sauf erreur, là, il y a seulement 13 équipes là, de la CHL qui vont jouer. Ça va avoir l'air de quoi votre saison à peu près, si évidemment tout se passe bien? Là, on parle de combien de matchs, puis comment ça se passe? Est-ce que c'est seulement que des voyages rapprochés ou?
Ben là, en ce moment, on a juste un horaire, je pense que c'est jusqu'au 13 janvier. Puis après ça, là, je pense que ça va dépendre de ce qui va se passer avec justement le COVID, là, les vaccins, puis tout ça. Peut-être qu'il y a des équipes qui vont embarquer pour le reste de la saison. Je sais que l'horaire est sorti, je pense, jusqu'au 13 ou au 15 janvier hein, pour l'instant. Là.
OK. Là, je regardais, on avait évidemment, comme on dit, planifié cet entretien-là vendredi. Tu as quand même eu un bon premier match. Tu as participé aux 3 buts de ton équipe dans une défaite de 4-3. C'est ça? Comment ça se passe, le calibre, puis tout ça? Si tu compares, peut-être tu as joué Ligue nord-américaine l'an passé, tu reviens CHL cette année, il y a une grosse différence?
Oui, il y a quand même une différence, là, mais tu sais, je pense que la LNRH, c'est une ligue qui est vraiment sous-estimée. Là. Il y a eu des très bons joueurs dans cette ligue-là aussi. Puis c'est sûr que la East Coast, je suis revenu hier, puis j'étais content du match. C'est décevant qu'on ait perdu. Je pense qu'on manquait un peu de. C'était un peu décousu. Là. C'était une première game pour tout le monde. Là. À peu près tout le monde n'avait pas joué depuis 8-9 mois. Là. Fait que. Mais je pense qu'on va travailler là-dessus cette semaine, puis essayer de s'améliorer, c'est sûr.
Au Texas, les gens, bon, évidemment, il y a les Stars de Dallas dans la Ligue nationale, mais comment c'est le hockey au Texas?
Le hockey au Texas, tu sais, dans le fond, c'est pas, comment je pourrais dire, quand j'étais à Austin, c'était très populaire, à Dallas aussi, puis à Allen aussi, ça a l'air que les gens, les fans sont là en grand nombre, puis comme je dis, là, on a beaucoup de gens qui nous aident pour nos appartements, même pour la bouffe et toutes ces choses-là. Là, on est vraiment chanceux sur ce côté-là. Ce qui paraît une bonne foule, j'ai pas pu jouer encore à la maison, là, mais à ce qui paraît habituellement, là, je ne sais pas avec le COVID comment ça va être, mais à ce qui paraît, il y a une très bonne foule.
Là, concernant les incertitudes, tu arrives quoi là-bas? T'es seul, t'es avec ta famille, t'as des coéquipiers québécois, je pense qu'ils sont là aussi. Comment on vit ça? Il y a de l'incertitude. Je sais pas si à partir de janvier ou février, la saison ne sera pas arrêtée, là.
Ouais, ben tu sais, c'est ça, comme tu dis, on le sait pas encore. Là. Moi, dans le fond, je cohabite avec Alexandre Lavoie. Ça aussi, là, je suis vraiment content qu'il, comme tu arrives dans une nouvelle équipe, que c'est tout le temps le fun d'avoir un Québécois qui est là avec toi, puis surtout un gars qui a joué ici, tu sais, qui sait un peu comment ça fonctionne. Fait que ça, j'étais vraiment content là, pour ça. Là.
Alexandre Lavoie, l'ancien des Saguenay de Chicoutimi, là, pour ceux qui suivent le hockey junior depuis longtemps. On s'entretient avec Samuel Laberge. Samuel, je veux t'emmener sur une question. L'an prochain, il y aura une équipe à Trois-Rivières dans la ECHL, puis on ne s'est pas caché. On a fait une entrevue il y a quelques semaines avec Mark Whiteman, qui est le président de cette équipe-là, qui a dit ouvertement, nous, on veut avoir des joueurs québécois, puis tout ça, puis peut-être que ça va devenir un peu le club-école du Rocket de Laval. J'imagine que pour des bonhommes comme toi, puis tu peux peut-être même inclure ton co-chambreur, c'est une opportunité qui va peut-être se présenter l'an prochain.
Ah, c'est sûr, tu sais, on sait jamais là, ce qui peut arriver. C'est, tu y vas année par année, ça va dépendre de la saison ici. Là, en ce moment, on est vraiment un bon groupe de gars. La chimie est bonne. Faut juste, comme je dis, ça fait pas longtemps que je suis ici, mais les gars là sont vraiment smart, gentils avec moi. Puis je pense que c'est comme je dis, là, c'est un peu du hockey des cousins en ce moment. Puis faut faire qu'on travaille là-dessus. Mais c'est sûr que Trois-Rivières, là, ça, c'est proche de la maison et tout. Mais comme je dis, là, on va voir l'an prochain là,
Vous réussissez, les gars, à gagner votre vie en jouant au hockey, mais pour ceux qui ne sont pas nécessairement au courant, là, on parle pas du même genre de salaire de la Ligue nationale et de la Ligue américaine quand on joue dans la ECHL. On arrive quand même à bien se débrouiller, là, si, je ne sais pas si tu veux partager ou en tout cas au moins nous dire un petit peu que la vie est quand même bonne.
Oui, non, pour vrai, on est vraiment chanceux, là, comme tu dis, on joue au hockey pour gagner notre vie, là, fait que... on est dans la East Coast, dans le fond, on a pas nos appartements sont payés. Fait que, tu sais, c'est vraiment, comme je dis, là, on est vraiment chanceux. Là. On n'a pas à se plaindre.
Le rêve de la Ligue américaine, puis éventuellement de la Ligue nationale, on réussit à le garder pareil. Je pense que la ECHL a publié justement il n'y a pas longtemps qu'il y a 600 ou 700 anciens joueurs qui jouent dans la Ligue nationale qui ont déjà passé par la ECHL. On a eu un bel exemple avec Alex Belzile, un autre ancien de l'Océanique l'an passé, qui a joué quelques matchs l'été avec les Canadiens durant la bulle. On y croit toujours.
Oui, c'est sûr. Comme je dis, tu sais, moi, personnellement, ça a peut-être pris. Il a peut-être fallu que je prenne un pas de recul pour passer à moi, puis tu sais, pour recommencer dans le fond, puis avoir toute la tête au hockey. Mais comme tu as dit, Alex, je pense que c'est un bel exemple pour tout le monde, là, tous les Québécois qui n'ont pas été repêchés, là, puis que ce gars-là, ça fait des années et des années qu'il travaille extrêmement fort. Je pense que c'est un exemple pour tous les Québécois, là.
Samuel, merci beaucoup. On va te souhaiter bonne chance avec les Americans de Allen. On va suivre ça à distance, évidemment. Il n'y a pas beaucoup de hockey professionnel qui joue présentement. Alors, bonne chance, puis bon temps des fêtes aussi aux États-Unis, en espérant que tout le monde demeure en sécurité et en santé. Merci beaucoup, Samuel.
Merci, Sylvain. Bonne journée.
Alors voilà, Samuel Laberge, ancien capitaine de l'Océanique de Rimouski, qui a commencé sa saison donc dans la ECHL en fin de semaine. On va suivre ça au cours des prochaines semaines, surtout au début janvier. Alors, comme on le sait, là, la Ligue américaine, ce n'est pas avant février. La Ligue nationale, on ne sait pas trop non plus. On parle beaucoup du 13 janvier. On verra bien. On se le souhaite, mais pour l'instant, c'est un peu de l'inconnu. Écoutez, avant de terminer la balado de cette semaine, il faut évidemment que je revienne sur deux décès qui sont survenus en fin de semaine. Pierre Lacroix, ex-agent de joueur, ex-directeur général des Nordiques de Québec, de l'Avalanche du Colorado. Et également le décès de Jocelyn Morissette, de la fameuse famille Morissette, qui a longtemps été propriétaire du Titan de Laval et des Prédateurs de Granby. Deux décès, j'ai écrit une chronique d'ailleurs hier soir sur le site web de RDS, deux décès de deux hommes qui ont marqué à leur façon, évidemment, de façon bien différente, la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Moi, j'ai connu Pierre Lacroix à mes tout débuts à RDS, au début des années 90. C'était un agent de joueur reconnu. Quand tu étais dans l'écurie de Pierre Lacroix, on savait que tu étais en bonne main. Il a eu des clients, là, les meilleurs joueurs au Québec ou à peu près ont fait partie de l'écurie de Pierre Lacroix. Ses premiers clients ont été Bob Sauvé et Mike Bossy. Par la suite, il y a eu évidemment Patrick Roy, Pierre Turgeon, Vincent Danfousse, Alexandre Daigle et j'en passe évidemment. Et il a fait le saut en 94 pour devenir directeur général des Nordiques, une saison à Québec avant que l'équipe déménage à Denver. J'ai un peu, évidemment, perdu de vue Pierre Lacroix à partir du moment où l'équipe a déménagé à Denver. On se voyait beaucoup moins. Mais dans mes débuts à RDS, j'étais quand même qu'un jeune journaliste de 23-24 ans. Beaucoup de respect avec Pierre Lacroix. J'ai un souvenir d'un bonhomme qui était un pince sans rire incroyable. Tu parlais avec lui, il t'emmenait en bateau et des fois, ça prenait 30 secondes, une minute avant de te rendre compte que tu te faisais amener en bateau un peu. Il était extraordinaire pour ça. C'était un joueur de tour reconnu de ses amis. Puis je ne veux pas prétendre là, que j'étais proche de lui ou tout ça. Je n'étais pas proche de lui dans son cercle rapproché, mais je pense quand même l'avoir assez bien connu. C'était un homme pour qui j'avais beaucoup de respect. Je me souviens de des fois, en tant que journaliste, tu cherches des nouvelles, tu veux avoir des scoops, comme on dit dans le métier. Pierre a déjà été là pour moi dans ces situations-là. Je pense qu'il comprenait que j'étais un jeune qui commençait et qui avait besoin de ce genre d'aide, si on veut, entre guillemets. Le repêchage de 1994 a été pour moi marquant à Hartford. Son premier repêchage comme directeur général des Nordiques, c'est le soir où il a échangé Matt Sundin au Maple Leafs en retour, entre autres, de Wendell Clark. Il avait fait l'acquisition d'Uwe Krupp. Il me semble que j'avais passé la soirée tout près de la table des Nordiques ce soir-là et Pierre était là et Pierre me faisait des clins d'œil de temps en temps. Puis là, Pierre était quelqu'un qui aimait quand même comme on dit, voler le spectacle. Et ce soir-là, il l'avait volé solide. Et moi, le jeune journaliste que j'étais, bien, j'avais profité un peu de cette présence-là pour avoir quelques primeurs. Et ça a changé, je vous dirais, un peu le début de ma carrière de journaliste à RDS. Alors, je voulais saluer Pierre Lacroix. J'ai envie de vous conter une anecdote. Elle ne m'implique pas personnellement, elle implique des collègues. Ça s'est passé au Mondial Junior de 1993. À l'époque, Jean Lefebvre, Marc Lachapelle et Éric Pedneau représentaient RDS. Éric Pedneau comme producteur à RDS du championnat mondial junior. Moi, je travaillais de Montréal et les trois m'ont raconté un coup pendable. Et vous allez voir un peu la personnalité de Pierre Lacroix. M'ont raconté un coup pendable que Pierre Lacroix leur avait fait. En Suède, à Gävle, un petit village là, perdu de la Suède où avait lieu le championnat du monde junior cette année-là, des collègues rencontrent Pierre Lacroix dans le lobby de l'hôtel et Pierre leur suggère un bon restaurant où il dit aux collègues, j'ai été manger là hier, c'est vraiment très bon, ça s'appelle le Stabfish, le restaurant, puis ça, je vous le recommande. Alors, les collègues prennent en note le nom du restaurant, l'adresse, évidemment, et c'était à l'époque où il n'y avait pas de GPS, on va se le dire, là, on fonctionnait avec les cartes routières. Alors, imaginez nos trois compères, et je vous le dis, là, j'étais pas là, je me l'ai fait raconter, mais tellement souvent, cette histoire-là, et Pierre Lacroix me l'a raconté aussi, et était tellement fier de son coup. Il avait envoyé les trois collègues à peu près à 45 minutes, une heure de l'hôtel pour supposément aller à ce restaurant-là, le Stabfish. Et les collègues ont cherché le restaurant pour finalement se rendre compte, une fois qu'ils ont trouvé l'adresse, qu'il y avait une simple maison dans laquelle Pierre Lacroix, qui était passé là à l'avant, avait planté un poteau avec un carton et avait écrit « Les fiches sont dans la sable ». Je vais traduire « Les poissons sont dans la sable », la marque de la voiture dans laquelle les collègues étaient. Et là, quand les trois collègues se sont rendus compte du coup qu'ils s'étaient fait passer par Pierre Lacroix, ils n'en revenaient pas. Ils sont revenus à l'hôtel. Et quand ils sont revenus à l'hôtel, ils avaient une enveloppe qui était à la réception pour eux. Et c'est Pierre Lacroix qui avait pris une photo Polaroid de lui et de la pancarte en question qu'il avait été lui-même planté. Tout ça, là, juste pour faire un coup pendable à mes trois collègues, là, Jean, Marc et Éric. Alors, vous voyez un peu le genre de personne que c'était. C'était ça. C'était le genre de personne qui arrivait. Il ne laissait personne indifférent. Il avait un charisme incroyable. Alors, Pierre Lacroix qui a gagné la Coupe Stanley en 96 et en 2001. Il a été celui qui a donné la première chance à Bob Hartley de devenir entraîneur-chef au niveau professionnel. D'abord dans la Ligue américaine, par la suite avec l'Avalanche dans la Ligue nationale. Bob a gagné avec lui et avec les Bears de Hershey dans la Ligue américaine et avec l'Avalanche. On se souvient évidemment de la transaction Patrick Roy, qui avait été son client, qui est venu chercher à Montréal. Et parlant de Bob Hartley, alors, premièrement, je veux saluer et offrir mes sympathies à la famille Lacroix. Si jamais ils écoutent ce segment, ben, je les salue tous. Et parlant de Bob Hartley, il a été doublement affecté en fin de semaine parce qu'on a aussi appris le décès de Jocelyn Morissette, le plus vieux, le doyen de la famille Morissette, qui était un peu la force tranquille de la famille. Ce n'était pas le plus volubile, ce n'était pas le plus exubérant. C'était le vieux sage, un peu comme on le disait. Et Jocelyn nous a quittés à l'âge de 76 ans à la suite d'un cancer dont il avait appris l'existence au printemps dernier. Alors, c'est deux pertes pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je suis convaincu que lorsqu'on aura un gala des rondelles d'or, on pourra leur rendre hommage. Je salue également donc la famille Morissette et j'offre mes sympathies à tous les frères, les fils, les neveux et tout ça que j'ai eu la chance évidemment de côtoyer pendant ma carrière. Jocelyn était un grand-père aimé, un père aimé aussi. Alors, je salue la famille Morissette. J'ai trouvé que c'était un week-end difficile pour la LHJMQ. J'ai parlé avec le commissaire Gilles Courteau hier, qui était très affecté. Pierre Lacroix, c'était un de ses très bons amis qu'il avait connu dans les années 70, lorsque ce dernier a débuté sa carrière d'agent et qui a été un complice pour le commissaire de la Ligue junior majeure du Québec. Alors voilà, je tenais à terminer le balado diffusion de cette semaine en rendant hommage à ces deux disparus du week-end, Pierre Lacroix et Jocelyn Morissette. Ben voilà qui complète notre balado diffusion numéro 10. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle qu'on sera là pour une dernière avant Noël la semaine prochaine. Après ça, on fera une petite pause. On reviendra au mois de janvier. Je remercie Roxane Clermont à la technique. Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche, mes invités, John Goyens, ex-entraîneur du Drakkar de Baie-Comeau, Jacob Pelletier d'équipe Canada Junior et Samuel Laberge des Americans de Allen. Stéphane Leroux qui vous dit à la prochaine. Bye bye.